Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En cette période de vacances scolaires, pas d'interview mais un reportage long format. Nous vous emmenons cette fois-ci au service ORL du CHU Guy de Chauliac, où le professeur Frédéric Venaille, responsable médical de l'unité otologie et otoneurologie, a accepté de nous ouvrir grand les portes du bloc opératoire pour assister à une implantation cochléaire assistée par le robot semi-autonome Hiro, une première en France. Alors l'implant cochléaire, pardon, pour commencer, qu'est-ce que c'est ? Il consiste à introduire dans la cochlée, donc dans l'oreille interne, une électrode miniature dont le rôle est de stimuler cette fameuse cochlée afin d'améliorer l'audition des personnes souffrant d'une sourdité sévère à profonde. L'opération à laquelle nous avons assisté a été réalisée dans le cadre d'un protocole de recherche clinique, puisqu'il s'agit d'une opération assistée par le robot Hiro, une machine conçue par l'entreprise suisse Cassination et Medel, pardon, pour réaliser la première phase de cette implantation cochléaire en fraisant un tunnel dans l'oreille interne. Le robot est couplé à de l'imagerie médicale permettant de calculer la trajectoire optimale de fraisage et de diminuer ainsi le risque d'endommager les structures de l'oreille interne. Le protocole prévoit 10 essais, nous avons assisté au troisième et sans vouloir divulgâcher notre reportage, cela se termine par un succès. En fin d'émission, nous restons dans le domaine médical avec le retour d'Amrine qui viendra nous présenter la société Medixel. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Donc là, on va réaliser une implantation cochléaire chez une patiente qui a un problème de surdité. On va le faire à l'aide d'un robot qui va nous aider à améliorer la précision du geste chirurgical.
Implantation cochléaire, on est dans l'oreille, c'est bien ça, hein ?
Exactement, c'est pour les personnes qui ont des surdités qui ne peuvent pas être réhabilitées par un appareil auditif conventionnel. Et lorsque ce système est dépassé, on va faire directement de la stimulation électrique du nerf auditif en rentrant dans l'oreille interne.
Le robot, il s'appelle Hiro.
Voilà, le robot, il s'appelle Hiro. Il est développé par une société suisse, donc Cassination. Et donc ça, c'est le premier robot de ce type pour pouvoir réaliser ce genre de chirurgie. Actuellement, on est le seul centre français à disposer de ce robot. Là, on va réaliser une implantation supplémentaire dans le cadre d'un essai clinique.
Donc là, il y a 10 essais, 10 patients qui doivent être opérés dans le cadre de l'essai clinique, c'est bien ça ?
Exactement. Nous devons réaliser 10 patients dans une première phase et puis après, on étendra ce geste, si possible, à plus de personnes dès que ça sera possible.
Et là, alors, donc c'est le combientième ?
Ah, c'est le troisième.
Et troisième pour vous aussi ?
Oui, aussi.
Là, on est dans les couloirs de l'hôpital. Il est moins de 8 heures et donc on part au bloc opératoire. On vient de se changer, je suis tout en vert. Et donc je suis accompagnée de deux doctorants qui vont également assister à l'opération. Est-ce que vous voulez vous présenter ?
Bonjour, donc je m'appelle Lucas Lavenir. Je suis plus doctorant depuis quelques jours. Je suis donc au sein du laboratoire LIRM, donc qui est le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Et je travaille donc avec Alexandre, ici présent, sur les thématiques de l'implant cochléaire, plus en lien avec la chirurgie qui s'appelle donc l'implantation cochléaire.
Et toi ?
Donc, bonjour, moi c'est Alexandre Tullier. Donc je commence ma première année de doctorat avec le LIRM. Je suis encadré par Nabi Zimiti et Philippe Poignet. Moi aussi, je vais travailler sur les applications de l'insertion cochléaire et en particulier sur la robotique souple qu'on souhaite appliquer lors de l'insertion cochléaire.
Vous êtes là pour le robot Hiro, c'est ça ?
C'est ça.
Je vois qu'il y a pas mal de monde. Combien de personnes assistent à l'opération, là ?
Une dizaine.
Bonjour.
Hey, good morning. How are you ?
Et donc vous n'êtes pas chirurgien du tout, donc pourquoi vous avez choisi cette application-là, hein ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ?
De base, c'est la robotique me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ce soit pluridisciplinaire. Et en fait, j'avais beaucoup hésité entre la robotique industrielle et la robotique médicale. Et Donc j'ai fait commencer par des stages de L3 au laboratoire de robotique dans une équipe de robotique chirurgicale. Ça m'a plu, donc je suis resté là-dessus.
Vous n'êtes pas personnel médical?
Non, je suis personnel de recherche.
C'est la première fois que vous assistez à cette opération?
Non, en fait, c'est déjà le troisième patient. Pour la première fois, il y avait un problème avec le robot. Du coup, le chirurgien était converti en traditionnel. Le deuxième chirurgien, le robot marchait, tout est bien allé. C'était la première implantation genre robotique. Et maintenant, c'est pour le robot, c'est la deuxième fois, mais en gros, c'est le troisième patient. Il faut pas mal d'assistance. Oui. C'est l'équipe du MEDEL qui vient, qui a fait les études. Ils viennent pour faire les installations, pour recueillir les données, pour voir en fait, parce qu'il faut positionner le robot. Pour l'instant, ce n'est pas automatiquement.
L'équipe de MEDEL, c'est quoi?
MEDEL, c'est le bot qui fait les implantations, qui élabore les implants cochléaires MEDEL.
Très bien, c'est ceux qui font les implants. Ça marche.
Il y a le scanner préopératoire, mais au tout début, c'est bien avant la chirurgie. C'est pour faire le planning, pour voir les paramètres du cochlée. Parce que pour l'instant, c'est juste le début de la recherche de ce genre. Il faut vraiment les paramètres anatomiques assez particuliers pour être sûr que le robot ne va pas endommager le nerf.
Chacun a une cartographie un peu différente de l'oreille, c'est ça?
Oui, oui, ça varie de patient en patient.
Donc on voit un espèce d'appareil en forme de C. Exactement. Et donc ça, c'est un scanner.
Ouais, c'est un C-arm, si je ne me trompe pas. Non
et le robot Hiro, il est où?
Pour l'instant, il s'installe le patient, mais après, vous verrez.
Et oui, parce que donc là, on est derrière une vitre, mais il faut imaginer qu'autour de la patiente, il y a actuellement 2, 4, 6, 8, 10, 12... 13 personnes, 14. Donc effectivement, on voit pas trop. Donc là, le professeur Venaille. Donc là, pendant la demi-heure qui vient de se passer, vous avez, c'est quoi? C'est une cartographie de l'oreille? Non,
non,
c'est...
non, on a fait que de l'installation en fait. On essaie de s'installer du mieux possible pour pouvoir avoir la possibilité d'opérer dans de bonnes conditions et que le robot puisse faire son geste en même temps. Si on est mal installé, soit le robot ne peut pas agir, soit nous ne peut pas opérer. Donc il faut trouver un compromis pour que les deux arrivent à travailler en même temps.
Vous êtes du côté médical ou du côté technique?
Du côté médical. Côté médical. Moi, je suis l'assistant du professeur Venaille, donc c'est le professeur Venaille qui pratique l'intervention. Je suis là pour aider, pour assister. Du coup, on fait une incision en fait, derrière l'oreille. Et normalement, on est censé exposer l'os qu'il y a derrière l'oreille, donc la mastoïde. Normalement, on est censé faire un fraisage en fait, avec toutes les structures qui sont compliquées à exposer, donc la méninge, le sinus sigmoïde, le canal semi-circulaire latéral en profondeur et le nerf facial. Donc là, normalement, le robot il est censé fraiser en fait, la mastoïde directement en fait, en passant entre la corde du tympan et le nerf facial hein, pour accéder directement à la fenêtre ronde. Ça fait une voie d'abord au début moins invasive en fait, avec un fraisage qui est beaucoup plus limité.
Plus rapide aussi du coup?
Alors plus rapide, ça pour l'instant c'est une étude de faisabilité, ouais, donc okay. Pour l'instant il y a tout un temps d'installation, du robot, du patient, un temps de fraisage, avec aussi des contrôles, plusieurs contrôles en fait pendant l'intervention pour éviter, pour que le trajet soit bien calibré, donc du coup que le fraisage se fasse au mieux, pour éviter le nerf facial, donc pour l'instant ça prend un peu de temps quoi.
Du coup, c'est du stress, ce genre de d'essai, ou plus que sur une opération classique ou pas?
Ah, du stress, oui, mais c'est surtout très stimulant, en fait. Hein. Pour une équipe chirurgicale, c'est quand même beaucoup plus stimulant que stress, en fait.
D'accord.
Attends.
Je vais rechercher un petit
champ.
Ah bon? Bon, on va commencer, enfin, continuer l'installation.
On commence à voir, donc, tout le temps, cette position où ils ont les mains vers le haut.
Ouais.
Et qui est un peu caractéristique en matière des personnes qui doivent être considérées comme stériles. D'accord. Donc il y a tout le temps une personne intermédiaire là, qu'on voit à gauche. Puis c'est lui qui fait en fait intermédiaire entre le monde extérieur et...
et vous. Donc on est en train de voir peu à peu la salle se transformer en salle d'opération. Donc la patiente a été recouverte d'un drap. Donc le chirurgien a mis ses gants stériles. On devrait bientôt commencer. La patiente a le visage protégé avec du plastique. Donc, il découpe le plastique autour de l'oreille qui va donc être opéré.
Du coup, derrière, c'est quoi?
Le microscope.
Ah oui, d'accord. Donc là, on approche un gros microscope.
Il faut faire le contrôle.
Et donc, il y a un écran peut-être con.
Assistance informatique. Au professeur Vena, elle va Valider en fait chaque étape. Ouais. Chaque étape est vérifiée par le chirurgien. Il peut prendre le relais quand il veut en fait.
Donc maintenant, tout est recouvert de plastique. Donc le gros microscope est lui aussi recouvert de plastique. Le robot est également recouvert de plastique. Alors maintenant, c'est le scanner donc qui doit être recouvert de film plastique. On voit vraiment hein, la salle d'opération se transformer petit à petit et se faire emballer. Donc il est 9h33 et après près d'une heure et demie de préparation, l'opération va commencer. Donc là, le chirurgien commence à décoller l'oreille. Et donc, il cautérise en même temps. On est dans le bloc, mais il y a déjà beaucoup de monde dans la salle d'opération, donc on observe depuis une fenêtre de l'autre côté. Donc en effet, l'oreille se soulève pour donner accès donc, à l'oreille interne. Donc on est rentré dans la salle. Le chirurgien est en train de placer des vis. On voit 1, 2, 3, 5 vis à l'intérieur de l'oreille ont été posées en fait.
Alors on va peut-être devoir sortir, mais tous ces tabliers de plomb.
Oui, d'accord. Donc pour le scanner, en effet, tout le monde remet des tabliers de plomb. Et ils sont tous un peu stylés leurs tabliers, hein. Je vais en profiter comme vous venez de nous rejoindre, Philippe Poignet. Là, l'intérêt du scanner, c'est de vérifier que rien n'a bougé, hein.
Non, le scanner, il est vraiment fondamental parce qu'il va faire toute la planification et définir la trajectoire.
D'accord.
Contrairement à ce que ça peut, à ce qui se fait habituellement avec ce robot-là, en fait, le scanner pré-op, il a juste vérifié que la trajectoire était faisable.
D'accord.
Voilà. Et là, il refait en fait la planification et la définition de la trajectoire en direct. Enfin, ça peut prendre 5 minutes en fait après pour que l'ordinateur puisse recalculer en fait la bonne trajectoire.
Le module en forme de C tourne autour de la tête de la patiente. Donc là, ils doivent, après le scanner, ils doivent déplacer un peu la patiente. Donc ça a l'air d'être une opération périlleuse.
Attendez, il va falloir juste ouvrir les champs par-dessous un petit peu là pour pouvoir accéder au poignet.
Et il est 11h après 30 minutes où donc les médecins et les personnels techniques, donc les personnes en charge du robot, ont regardé les images et donc redéfini un peu le plan pour le forage. Maintenant, l'opération reprend. Donc, le professeur Venaille a pris la fraiseuse. Ça ressemble à un instrument de dentiste. Hein. Il commence, donc on voit des petits points bleus donc sur l'écran qui s'allument au fur et à mesure.
C'est bon, c'est serré.
Et donc là, c'est le robot et le bras articulé. Pardon, c'est le bras articulé qui intervient directement dans l'oreille de la patiente. On voit en direct sur l'écran la progression du foret vers le mastoïde de l'oreille. Là, il a atteint 10,1. 7 mm. La cible se trouve à peu près 19 mm. On vient de sortir du bloc. Seuls les médecins et les intervenants de la société sont restés car il y a eu une panne de courant. Le robot continue de fonctionner, mais les écrans à côté ne fonctionnent plus. Alors il est 11h34 et l'opération a repris après l'intervention d'un électricien.
We can. Yeah, absolutely. Time to wait. Which intensity do we choose?
Just go next.
Just go next?
Yeah.
I put it inside the hole first? Or?
No, you go next.
Or just there?
We do irrigation a bit.
Yeah.
Là, ce qui est amusant à observer, c'est donc que l'équipe qui a conçu le robot est en train de conseiller au fur et à mesure d'expliquer aux chirurgiens comment se servir du robot. On est un peu entre chirurgie et robotique. Il est midi 20 presque passé et le forage est quasiment terminé. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est le LW et MW qu'on voit sur l'écran? Alors, la barre rouge.
Alors, la barre rouge, ça va être la fenêtre ronde.
D'accord, c'est ça, c'est la fenêtre ronde.
LW, en fait, c'est comme une petite berge osseuse. D'accord. Qui est devant la fenêtre ronde. Donc, en fait, là, la fraise, elle a percé l'os.
Ouais.
Donc, elle arrive après dans la cavité de l'oreille moyenne.
Ok.
Et maintenant, elle va s'approcher de la fenêtre ronde, donc de l'oreille interne.
Ouais.
Et puis, par-dessus cette oreille interne, en général, par-dessus la membrane, il y a toujours un petit sourcil osseux.
D'accord.
Qui va venir fraiser. Donc, il va changer de fraise et venir fraiser ça. Ouais. Pour après, il aura libéré l'accès
pour
à la fenêtre de l'oreille interne.
D'accord. Voilà. Et donc, pour poser l'implant. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup.
21.2 is milling, that's fine. 0.12, yeah? The milling, that's it.
Milling, yeah.
Okay, now from the tip of the bear to the volume.
Je peux déterminer ça?
Yeah, now the robot can go back. Now we can keep it.
Oh, yes, but
just check it. Okay.
Alors, il y a encore le. Il y a un autre agent pour le robot.
Oui, le robot, il va pas.
We need to retract the arm of the robot. I cannot. We can unlock it right now. We can remove the robot anyway.
I think we are there.
On peut tout enlever. Vas-y, recule la colonne. On va aller bloquer le robot en bas.
Donc il faut maintenant reculer le robot pour permettre la poursuite de l'opération donc qui va consister à poser des électrodes.
Pour que le micro, vous me le décaliez un peu vers la tête, s'il vous plaît.
Donc, le chirurgien est en train de retirer les quatre petites vis qui avaient été posées. Ah oui, ok. Merci. Et qu'est-ce qu'il fait alors du coup dans le conduit auditif?
Là en fait, la première fois où il est passé sous microscope, c'était justement pour soulever ce qu'on appelle le lambeau tympanométal et avoir accès aux deux fenêtres, donc les deux moyens d'entrée dans l'oreille interne, la fenêtre ovale, à laquelle on ne va pas s'intéresser dans cette opération, et la fenêtre ronde à travers laquelle on va rentrer le porte-électrode. Et là, le trou qu'a fait le robot nous a permis d'arriver juste au-dessus de la fenêtre ronde et de fraiser une petite zone osseuse qui la recouvre et qu'on appelle le sourcil. Là, la difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu d'ossification sur la fenêtre ronde, là où d'habitude il y a une membrane un petit peu grise qu'on ouvre à la micro-pointe et qui permet après d'accéder à la cochlée, donc une cavité remplie de liquide dans laquelle on met le porte-électrode.
Merci. Une opération comme ça, sans robot, ça dure combien de temps normalement?
Monsieur René? 1h15, 1h30.
D'accord, ok.
Monsieur René, ça dure un peu plus longtemps.
Ah oui.
ça dépasse pas les 2 heures, en général.
D'accord. Là, on voit le chirurgien qui a introduit le porte-électrode, c'est ça?
C'est en fait le guide pour le porte-électrode. C'est ce qui va nous permettre de le passer sans le blesser contre les parois osseuses qui pourraient être irrégulières autour.
C'est en métal ?
Oui. Ouais.
Ça ressemble à une cheville, un peu. Hein.
C'est en deux parties, parce qu'à partir du moment où on aura mis le porte-électrode, il va être fixé en bas dans la cochlée et fixé en haut. Au boîtier qui sera à l'intérieur, et en fait il faudra le séparer en deux pour pouvoir le retirer sans retirer le porte-électrode.
Là on voit en effet le chirurgien insérer l'électrode, ça ressemble à une petite fibre, un fil.
Do you want to use the trajectory pointer?
Il n'arrive pas à le rentrer là, c'est ça?
Non. Ah, c'est... Déjà parce que la fibre est très souple en fait, donc c'est difficile de la rentrer directement dans le bon axe du premier coup. Et après, il peut y avoir des petites, zones de membrane, une petite zone un peu ossifiée au niveau de l'entrée de la fenêtre, et qui fait qu'on a quelque chose de très souple qui arrive sur quelque chose de rigide ou d'un peu dur. Et du coup, ça tord le bout. Et là, on a vu que le bout commence à être un petit peu plié. Et à partir du moment où c'est un petit peu plié, c'est plus difficile de le rentrer.
Donc on voit le porte-électrode passer.
That's the grey marker, yeah? Yeah, there we stop. Should we do imaging before closure?
Donc ça y est, c'est bon. Donc là, ça y est, les électrodes sont installées, c'est ça ?
C'est installé, c'est en place. Donc avant de fermer, on va vérifier avec un nouveau scanner qu'on voit bien le porte-électrode dans la cochlée. Et si c'est en place, on retire le scanner et on ferme.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup pour les explications. Okay. L'oreille a été recousue, refermée, et maintenant, les personnes qui ont conçu l'électrode vont la tester à l'aide d'une sonde pour voir si tout fonctionne bien. Et donc, il est 13h11. Est-ce que je peux vous demander de me dire alors comment ça s'est passé?
Bah, ça s'est bien passé, l'intervention elle s'est déroulée comme prévu, pour avoir les résultats à distance. Bon, enfin, tout a été conforme à ce qu'on attendait, l'intervention s'est bien déroulée, on a pu faire tous les contrôles pendant la chirurgie, le robot a bien fonctionné, donc content.
D'accord, donc vous êtes content. Une opération comme ça, normalement, vous la faites en combien de temps?
Bah, normalement, c'est un petit peu moins de 2 heures. Là, on a mis le double.
Et donc l'intérêt, c'est une question de sécurité. Si à terme, on arrive à utiliser ce robot, c'est ça, c'est une question de sécuriser?
Il y a plusieurs intérêts. Alors déjà, c'est vrai qu'effectivement, une question de sécurité, parce qu'on fait beaucoup plus de contrôles pendant qu'on fait l'intervention avec le robot par rapport à l'intervention qu'on fait sans le robot. Ça, c'est déjà une première chose. Et après, le robot, il permet de planifier la trajectoire à l'avance de la façon dont on va mettre l'électrode à l'intérieur de l'oreille interne. Et ça permet d'optimiser cette trajectoire, ce qui n'est pas possible de faire à la main. Donc on va pouvoir insérer de manière, je dirais, plus efficace et en endommageant moins l'oreille interne.
D'accord. Eh ben, bravo à vous, c'était impressionnant à voir.
Merci.
Et merci beaucoup de m'avoir laissé rentrer. Et on passe maintenant à la chronique d'Amrine. Bonjour Amrine.
Bonjour Lucie.
Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une innovation avec l'entreprise MedXL Ncar, une start-up créée en 2020 et installée à Montpellier qui développe une plateforme visant à concevoir des produits dans le domaine de l'immunothérapie cellulaire. La plateforme s'appelle INCAB.
Exactement Lucie. En moins de 10 ans, l'immunothérapie a révolutionné la lutte contre le cancer. Parmi les différentes approches, la cellule CAR-T, qui combine thérapie génique et thérapie cellulaire, constitue une nouvelle source d'espoir dans le traitement de certains cancers du sang. Les stratégies basées sur les cellules tueuses naturelles sont récemment apparues comme des approches alternatives susceptibles d'adresser un panel plus important de maladies. Cancer, auto-immunes, infectieuses et à des coûts plus faibles. MedXL Ncar s'est mobilisé pour proposer des innovations thérapeutiques basées sur l'association de façon simple grâce à une technologie brevetée des cellules NK avec des anticorps monoclonaux.
Et donc cette innovation, elle sort tout droit de l'université de Montpellier, c'est bien ça ?
Oui, la société valorise des travaux de recherche de deux équipes académiques montpelliéraines. Les résultats obtenus ont permis le dépôt d'un brevet qui a été licencié à la société. Les cinq chercheurs académiques, à l'origine de l'innovation, continuent de participer au développement de l'entreprise à travers le dispositif de concours scientifique. La société se définit comme un accélérateur d'innovation académique en vue de leur industrialisation.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle va changer dans la vie des cliniciens, des patients ou même au système de santé en général ?
À travers sa plateforme INCAB, l'entreprise propose une nouvelle approche d'immunothérapie cellulaire allogénique sur étagère. Cette technologie permet de générer à la demande des produits de thérapie cellulaire universelle désignés pour cibler et détruire des cellules malignes, voire même des cellules infectées par un pathogène.
L'immunothérapie cellulaire antitumorale est donc un vrai défi pour restaurer l'action de notre système de défense, c'est ça ?
Le système immunitaire réagit lorsqu'un virus, une bactérie ou un autre agent pathogène pénètre dans l'organisme. Il est aussi en mesure de reconnaître et de détruire les cellules devenues cancéreuses. Malheureusement, dans certains cas, celles-ci sont capables d'échapper à cette réaction immunitaire. Ainsi, l'un des grands enjeux de l'immunothérapie est de restaurer l'action antitumorale de notre système de défense. L'immunothérapie cellulaire proposée par la plateforme est l'une des stratégies innovantes déployées pour relever ce grand défi.
Et avec quels résultats et quelles perspectives alors ?
Medixell Care souhaite sur ces deux prochaines années démontrer la capacité de la plateforme INCAB à développer et amener en préclinique et clinique des produits d'immunothérapie cellulaire à fort impact médical et sociétal.
Et pour conclure, la devise de la start-up ?
À l'avant-garde de la thérapie cellulaire.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité en studio. D'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.